At the top isn't so important. What I'd like to do, that is what I would like to accomplish. I would like to be a good actress. Mm-hmm. And it's not a matter of being on top, because I think some of the best actors and actresses perhaps aren't on the top. So that's not the thing. Except I appreciated what I saw. Bad, good, it didn't matter. I enjoyed it very much, everything that I would see. Just anything that would move on the screen. However, I think I realize more and more the responsibility. And it is a responsibility, and as I say, I would like to be a good actress.
Eh bien, bonjour mon cher Hugo.
Salut Gwen.
Bienvenue à ETC.
ETC.
ATC. Là, ce ne sera pas une émission musicale.
Non.
Là, ça va être...
On a rangé les enfants au placard.
Oh, voilà, tout à fait. Ou au frigo, ça dépend. Et puis, on va se lancer cette fois-ci sur l'émission qui était prévue l'avant-dernière fois, c'est-à-dire sur Marilyn Monroe.
As I say, the thing I like the most is to become a real actress. Mm-hmm. And I remember when I was a kid, sitting in the front row at the movies on Saturday afternoon. And I would never come out of the movie. They'd have to come and get me. You know, I'd sit in the front row. And I think how wonderful it would be to be an actress and so forth. But I didn't really realize about acting.
Qui est Marilyn Monroe? Qui est Marilyn Monroe? Et qui est Marilyn Monroe?
Ah, sont plusieurs ?
Oui.
Ah,
ben justement, oui, on en parlera.
Alors, Marilyn Monroe, de son vrai nom Norma Jean
Baker.
Bien. Est une actrice et chanteuse américaine née le 1er
juin.
Merci. 1926 à
Los Angeles, Californie.
Et morte le 5 août 1962 dans la même ville. Ça aussi, on en parlera tard. L'année 62, cette année-là.
Oui.
Alors, elle se destine initialement au mannequinat. C'est ce que c'est, Gwen.
Oui, oui.
C'est
oui.
Pour les gens qui sont beaux. Avant d'être repéré par Howard Hughes et de signer son premier contrat avec la 20th Century Fox en 1947. Au début des années... Là, je vais vite, hein, parce que après, toi, tu reviendras, tu aimes ça, la détaillerie. Au début des années 50, elle accède au statut de star hollywoodienne et à celui de sex symbol. Ses grands succès incluent Les hommes préfèrent les blondes, 7 ans de réflexion ou encore Certains l'aiment chaud, qui lui vaut le Golden Globe de la meilleure actrice dans une comédie en 1960. En dépit de son immense notoriété, sa vie privée est un échec et sa carrière la laissera insatisfaite. Les causes de la mort demeurent l'objet de vives spéculations, suicide, surdose de barbiturique ou assassinat politique.
Barbiturique ?
Barbiturique ?
C'est la fameuse barbiturique.
Oui, c'est curique.
Non, c'est Turic. Stanley Kubrick, c'est barbiturique.
En 1999, l'American Film Institute l'a distinguée comme la 6e plus grande actrice américaine de tous les temps.
Eh bien, moi, je voudrais déjà commencer...
Ce qui ne t'arrivera jamais.
Non, mais en tant qu'actrice, non, pas trop.
Merci, Hugo.
Moi, je voulais déjà commencer par sa mère, Gladys Pearl Monroe, qui est donc née en 1902 et qui est morte en 1984. Le 17 mai 1917, elle épouse John Newton Jasper Baker. Vous voyez, dont Marilyn obtiendra le patronyme en 1938. Le couple a 2 enfants, Robert Kermit Jack, 1918, et Bernice Inès Gladys, en 1919. Gladys connaît autant de liaisons sentimentales sans lendemain que des problèmes psychologiques et de santé. Aussi, Marilyn ne connaîtra jamais l'identité de son vrai père. Le 20 juin 1921, elle demande le divorce pour cruauté mentale, mais elle est accusée en retour de comportement indécent et de luxure. Le divorce est prononcé en 1923. Gladys obtient la garde de ses enfants, mais incapable de s'en occuper, elle est contrainte de les laisser à leur père, qui s'est installé dans le Kentucky. Robert meurt en 1933 à l'âge de 16 ans. Quant à Berenice, elle ne renouera avec sa mère qu'en 1939, alors que celle-ci est internée à l'hôpital Annew States pour schizophrénie. Et c'est à cette occasion qu'elle apprendra l'existence de sa demi-sœur Norma Jean. Voilà, donc
là, il y a de la jeunesse.
Ah bah, c'est-à-dire que il y a beaucoup de psychologues qui ont dit que effectivement Marilyn avait quand même hérité un petit peu des problèmes mentaux.
Voilà. Accouché, monsieur, voilà. Accouché là.
Et bah, justement, Marilyn naît le 1er juin 1926 à l'hôpital général de Los Angeles en Californie sous le nom de Norma Jean Martensen. Elle est cependant baptisée sous le nom de Norma Jean Baker. Son prénom est choisi par sa mère en référence à l'actrice Norma Talmadge, qui était une star du muet, avec sa sœur Constance et Nathalie, qui était l'épouse de Buster Keaton. Plus tard, Marilyn supprimera le E final de Jean. Alors, sur l'acte de naissance, on peut voir le nom de Gladys et celui de Martin Edward Martensen, un Californien d'origine scandinave et qui était releveur de gaz. Le couple est marié en 1924, mais ils se sont séparés en 1925, soit un an avant la naissance de Marilyn. Martensen obtient le divorce le 15 août pour abandon de domicile. Bien qu'elle soit une enfant légitime, Marilyn a toute sa vie nié le fait que Martensen soit son père. Lorsqu'elle était enfant, sa mère lui aurait montré une photographie d'un homme qui aurait été son père. Elle se souvient qu'il avait une fine moustache et une certaine ressemblance avec
Clark Gable.
Voilà, c'est pour ça que évidemment le film des accès des Misfits a relevé toute son importance. Pendant une longue période, Gladys ne peut s'occuper de sa fille et elle est à des familles d'accueil. Marilyn prétend longtemps que sa mère est morte, plutôt que d'avouer qu'elle vit dans un institut spécialisé. Durant ses 7 premières années de sa vie, elle est confiée à Albert et Ida Blunder. En 1933, elle peut vivre quelque temps avec sa mère, mais rapidement Gladys est internée pour des nouvelles crises d'hystérie. Ouais, c'est la fête. En 1935, Grace McKee, colocataire et collègue de travail et meilleure amie de Gladys, demande à devenir sa tutrice, ce qui sera effectif en 1936. Norma Jean s'installe avec Grace et son mari Erwin Silimum, Doc Godard. Mais suite à une tentative d'abus sexuel, Grace préfère le placer la jeune fille chez sa tante Anna Lower, où Jack Monroe, un de ses cousins,
c'est la deuxième.
Eh oui, l'agresse sexuellement. Alors en 1941, pour échapper à sa famille, elle fait la connaissance de James Jim Dugatery.
C'est pas la meilleure chose. Non.
Voisin de 50 son aîné, et elle se marie avec lui. Et grâce à Grace, parce que logiquement à 16 ans, on n'a pas vraiment l'âge légal de se marier. Le 19 juin 1942, soit quelques jours après son 16e anniversaire. Donc un an plus tard, après qu'elle ait abandonné ses études, Jim rejoint la marine marchande, et puis en 1944, un équipage de B-17
c'est vrai.
Au-dessus de l'Allemagne, avant son retour à la vie civile dans la LAPD.
Los Angeles.
Oui, Los Angeles.
Police d'État.
Voilà, département. Norma Jean travaille à l'unifugisation des ailes d'avion. C'est à cette usine que des journalistes militaires la repèrent. La première photo quasi professionnelle de Norma Jean est prise à l'automne 1944 par le photographe David Conover dans le cadre d'une campagne de l'armée américaine pour illustrer l'implication des femmes dans l'effort de guerre. En quelques mois, elle fait la couverture d'une trentaine de magazines de pin-up. En décembre 1945, elle tourne son premier film test pour l'agence Blue Book Modern Agency afin de promouvoir des maillots de bain. En février 1946, elle éclaircit la couleur de sa chevelure pour la campagne de shampoing. Elle divorce d'avec Jim, avec lequel elle n'avait que très peu de contact en 1946, donc, et rêvant de cinéma, elle prend des cours de théâtre. Sa blondeur ne la quittera plus, et ainsi que son fameux grain de beauté qu'elle mettait parfois au menton et plus souvent sur sa joue gauche au-dessus de la lèvre pour masquer une tache pigmentée. Alors Norma Jean attire donc l'œil de Ben Lyon, un cadre de la 20th Century Fox, qui lui fait passer un essai. Impressionné, il aurait déclaré « Voici la nouvelle Jean Harlow ». Elle signe avec la Fox un premier contrat de 6 mois, le 26 juillet 1946, pour un salaire de $125
de l'heure
par semaine.
Ah.
Alors, elle convient avec le studio de changer de nom en Marilyn Monroe, le prénom de Marilyn étant inspiré par l'actrice Marilyn Miller et le nom Monroe venant de sa mère. Elle apparaît dans Bagarre pour une blonde de F. Hughes Herbert en 1948 et il y a la présence de Natalie Wood, Fureur de vivre, West Side Story, et Monroe n'est pas mentionnée au générique et elle jouait une paysanne. Dangerous Youths d'Arthur Pearson en 1947. Un jeune délinquant vient exercer de mauvaises influences sur un groupe de Jones. Il met en place un cambriolage devant tous les impliqués, mais ce projet est dénoncé, s'ensuit une mort, un procès et un secret de famille dévoilé. Monroe joue le rôle de Eve, une serveuse dans le café où les jeunes se réunissent. La Fox ne renouvellera pas son contrat. Donc en 1948, elle signe un contrat avec la
20.
Non, la Colombienne. D'une durée de 6 mois aussi, et elle tournera dans le film musical à petit budget Les Reines du Musical de Phil Carson en 1948. Mae Martin, ex-vedette comique et sa fille Peggy Monroe, dansent tous deux dans une revue de musical. Un quiproquo contraint la danseuse vedette à s'en aller et Peggy la remplace. Cette dernière s'entiche de Randy, un homme riche, avec évidemment la fin... Petit APN. Donc le film est un échec. Son contrat n'est pas renouvelé. On y revient.
Oui.
Son apparition dans La pêche au trésor des Marx Brothers, en 1950 de David Miller, Harpo, auteur du film, et Chico, font partie d'un groupe de théâtre impliqué dans l'affaire de diamants volés. Marilyn joue une fille anonyme vers la fin du film dans le rôle d'une cliente du détective Sam Grunion, habillée en une robe particulièrement moulante.
Ah.
Une très brève apparition, mais qui cependant impressionne les producteurs et qui l'envoie à New York faire la promotion du film. Elle attire aussi l'attention de Johnny Hyde, très important Johnny Hyde, agent de la Williams Morris Agency, qui représente des
acteurs.
C'est
pas le frère à Mister.
Et qui accepte justement de la représenter, elle devient même son amant. Alors, ce qu'il faut savoir avec Hyde, c'est que c'est lui aussi qui l'aurait poussé à faire de la chirurgie esthétique.
Ah bon ?
Ouais.
Ça se faisait à l'époque déjà ?
Ah oui, ça se faisait. Je ne sais pas si tu t'en rappelles de ce film L.A. Confidential.
Si.
Et ben voilà, tu vois que le mec, là, le proxénète, transformait des filles des petites villes de l'Amérique en stars et tout. Donc il passait déjà par le bistouri. Alors évidemment, c'était moins affiché qu'aujourd'hui. Hein. On ne ressemblait pas à la mère de Sylvester Stallone, par exemple, ou même Sylvester Stallone lui-même.
Tu n'aimes pas cet acteur ? Non,
c'est la chirurgie esthétique.
Oui. Emmanuel Béart, si tu nous entends.
Voilà, c'est ça. Elle obtient un rôle pour un film Quand la ville d'or de John Huston. Alors excusez-moi parce que le nom est très compliqué. Et vous savez que j'adore les mots super compliqués.
Oui, surimi, si tu nous entends.
Doc Raiden Schneider, un cerveau du crime fraîchement sorti de prison, projette un cambriolage de bijouterie, décidément, qui devrait rapporter un demi-million. Ça doit toujours rapporter du sous. Il recrute Louis le chauffeur, Gus et le bailleur de fonds, et le solide Dix Henley. Tout se passe bien jusqu'au moment fatidique. Donc Monroe joue le rôle d'Angela Pinley, jeune maîtresse d'Alonzo Emmerich, le réalisateur.
Ah bon.
Et on ne la verra que dans 3 scènes. Les critiques soulignent sa performance, mais en manque d'argent et sous le nom de Mana Monroe, elle posera nue devant le photographe Tom Kelly. C'est les fameuses...
calendriers, là.
Voilà, les photos du calendrier qui ont fait le tour du monde et qui reviendront quelques années sur la scène dans le fameux magazine Live.
Je crois que ça lui a porté préjudice.
Et ben justement, pas du tout. Parce que, effectivement, ce genre de photos...
Non, mais au vu de certains réalisateurs, je pense que...
Oui, je pense que ça peut...
Il y en a qui s'en fait une idée là-dessus. Voilà, c'est ça. Rester là-dessus.
Effectivement, ça aurait pu flinguer sa carrière, mais je pense qu'elle est devenue un sex-symbole grâce à ça et qu'elle a quand même affirmé qu'elle avait fait ses photos dans le cadre où elle n'avait pas le moyen financier de pouvoir vivre. Je dirais que, tu vois, ces photos, c'était le buzz de l'époque, ce qui fait qu'effectivement...
On appelle ça un roadbook.
Voilà. Par exemple. Et ce qui fait que ça a évidemment un peu relancé, puisque les studios ne sont pas débiles. Dès qu'ils voient qu'une actrice commence à monter, ils se l'achètent. Donc elle est remarquée par Joseph Lee Mankiewicz, donc la comtesse aux pieds nus, Cléopâtre, le fameux reptile aussi, avec Kirk Douglas. Donc il voit en elle un des grands talents et qui l'engage pour jouer dans Eve en 1950 aux côtés de.
Adam ?
De la brosse, oui. Non, de Bette Davis. Donc Eve Harrington, Annie Baxter, reçoit des mains d'un vieil acteur le prix Sarah Siddon. L'entourage de celle-ci se souvient de son ascension. Donc l'apparition de Marilyn à la 23e minute au bras du critique DeWitt à une fête.
Ah oui.
Elle est une starlette et rêve de se réaliser sur une scène de théâtre. Mais comme elle est trop vive et parle sans réfléchir, elle vexe DeWitt et celui-ci l'envoie vers le producteur Fabian en n'oubliant pas de dénuder auparavant ses épaules. Elle aura le rôle. Grâce à ça, Marilyn négocie un contrat de 7 ans avec la 20th Century Fox en décembre 1950. L'année suivante, elle s'inscrit à l'Université de Californie à Los Angeles où elle étudie la littérature et l'art et apparaît dans des films mineurs avec pour partenaires Mickey Rooney, Constance Bennett, June Allison, Dick Powell et Claudette Colbert. La fameuse Claudette Colbert.
Ça me dit rien, je suis désolé.
Bah, c'est une actrice française qui a réussi.
Oui, avec un nom pareil, oui.
Voilà, c'est ça. Oui, non, mais voilà. Donc, jamais nommée aux Oscars, elle y fait sa première apparition le 29 mai 1951 pour remettre celui du meilleur son à Thomas T. Moulton pour Eve. Une soirée de cauchemar qui elle termine en larmes en découvrant que sa robe est déchirée. Qui en rappellera d'autres soirées aussi. Ouais.
Ah bon ? T'as eu la robe déchirée ?
Ouais, elle m'a coûté un bras, mais c'était sympa. Quoique, il y a une robe qui a coûté quand même plus que ça, on en reparlera plus tard.
Oui, aux enchères.
Voilà. Donc, et là, c'est là que commence la consécration.
Merci. C'était ouais. Trop compliqué, ce mot, j'ai pas osé le dire.
Mais tu as bien raison, mon cher Hugo, tu as bien raison. Parce qu'en 1952, elle fait scandale donc avec ses fameuses photos nues.
Oui.
Mais loin de ternir sa carrière, ce calendrier ajoute à sa notoriété.
En 1953, je vais vous parler d'un film.
Vas-y.
Les hommes préfèrent les blondes. Donc c'est un film musical de Howard Hawks, sorti en 1953. Cette comédie musicale se situe dans le milieu des danseuses de revue. Le scénario joue sur l'opposition totale entre les caractères des deux danseuses. Vedette d'une part, Lorelai, ça me rappelle quelque chose.
Oui, c'est la légende de la Lore.
Et d'autre part, Dorothy Shaw. Donc la première blonde, naïve, n'est intéressée que par les hommes riches. Et la deuxième brune, à la répartie bien aiguisée, tombe toujours amoureuse d'hommes honnêtes, mais peu fortunés, et ce, au grand désespoir de son ami. Car malgré tout ce qui les oppose, virgule, ces deux jeunes femmes sont bien les meilleures amies du monde. Elles sont bien décidées à partir en France pour découvrir Paris. Ce voyage est organisé par Lorelai au frais de son
richissime.
Oui, merci. Futur époux, Gus, encore un, Gus Esmond. Elle s'embarque sur un magnifique bateau avec Dorothy comme chaperon. Toutes deux surveillées de près par un détective privé, Malone, engagé par le père de Gus. Donc c'est la seule comédie musicale qu'a tournée Howard Hawks. Donc sont abordés tabous pour l'époque, puisqu'on parle de sexe et d'argent. Il faut rappeler qu'on est en 53.
Oui, tout à fait. La mort de Staline.
D'accord. Donc là, on revient donc sur ce que tu as dit tout à l'heure, puisque Jane Russell, celle qui joue la brune, fut payée 150 000 dollars, alors que Marilyn ne toucha que 15 000. Donc Marilyn Monroe est doublée par Marnie Nixon, que pour quelques notes aiguës. C'est, parce qu'on la retrouve aussi, celle qui... C'est Marnie Nixon juste qui est habituée à faire ça, donc, puisqu'elle double aussi Natalie Wood dans West Side Story.
Ah oui.
Heureusement que tu es d'accord.
Voilà. Je voulais juste revenir, c'est qu'effectivement, sa gloire commence, et c'est à ce moment-là que commence sa romance avec Joe DiMaggio, le fameux légende vivante du baseball, joueur des Yankees de New York de 1936 à 1951, puisque c'est justement quand il épouse qu'il prend sa
retraite.
Voilà. Donc, effectivement, là, elle tourne 4 films en quelques mois pour la RKO. Elle tient un second rôle dans Les démons s'éveillent la nuit de Fritz Lang. Elle participe ensuite à la comédie 5 mariages à l'essai d'Edmund Goodlin avec des acteurs comme Ginger Rogers.
Oui, ça c'est connu.
Voilà, Zsa Gabor, Paul Stewart. Donc, voilà. Et dans ce film, elle joue en fait une fille qui cherche à gagner le concours de Miss America.
Splendide.
Voilà. Elle joue dans le drame Troublez-moi en 1952 de Roy Ward Baker. En fait, à la suite d'un quiproquo, une malade mentale se voit confier la garde d'un enfant. Donc, là, elle joue le rôle principal. C'est son premier rôle principal. D'une nourrice qui menace de prendre l'enfant dont elle a la charge. La critique ne suit pas et Variety qualifie le film de léger. Il y a ensuite Chérie, je me sens rajeunir de Howard Hawks en 1952. Donc avec Gary Grant qui est un chimiste de talent et qui tente de mettre au point une eau de jouvence. Et elle en fait, elle joue la secrétaire Nunuche qui sait à peine taper sur une machine. Daryl F. Zanuck voit en elle une forte potentiel commercial et l'engage pour Niagara.
Oui, je trouve que là elle est la plus jolie dans
voilà.
Ce film.
Et dans, là où elle joue une femme fatale qui souhaite faire assassiner son mari Joseph Cotton qui était connu pour avoir joué dans Le Soleil Vert.
Et oui, voilà. Très bon film aussi.
Voilà. Donc les critiques apprécient le film et considèrent sa performance comme ouvertement sexuelle. Donc voilà, tout le côté...
C'est un film d'Attaway ça, non ?
Oui, Henri Attaway. Donc Zanuck l'a cependant toujours méprisé en tant que comédienne et ne s'est pas privé de le faire savoir. Donc évidemment, après, on a parlé de, comment ça s'appelle, les hommes préfèrent les blondes.
Là, juste pour dire, dans Niagara, là, donc, oui. C'était elle qui était à la vedette et aussi les chutes.
Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, on pouvait parler de chutes de cheveux, parce qu'à force de se faire peroxyder les cheveux, elle les a quand même perdus à la fin de sa vie.
Oui, donc c'était aussi la grande question, a-t-elle ou non une perruque ?
Ben, je pense. Alors, techniquement, je crois que.
Pour l'autopsie, il paraît qu'on en a mis une après pour l'enterrement.
Oh, je crois aussi, ouais, tout à fait.
Mais il paraît que pendant certains films, oui, on avait une perruque.
Voilà. Donc, l'image, il y a aussi. Parce que tu as parlé évidemment de Russell et de son histoire de salaire, mais il y avait aussi la fameuse image de Marilyn et Russell laissant leurs empreintes dans le ciment du Grauman Chinese Theater, qu'on voit aussi dans certaines séries.
Le fameux boulevard.
Voilà, c'est ça. Et c'est aussi dans ce film, donc Les Hommes préfèrent les blondes, que elle chante cette fameuse chanson Diamonds Are the Girl's Best Friend, qu'on retrouve chantée par Nicole Kidman dans Le Moulin Rouge, et que Madonna utilisera un petit peu en fond pour son fameux I'm a Material Girl. Alors en fait, elle, ce que Marilyn voudrait, c'est jouer un rôle dramatique. Mais la Fox lui propose L'Égyptien de Michael Curtiz. Mais Daryl Zuckman, le fameux, lui pose son veto. Il ne veut pas. De toute façon, il a toujours détesté la dette. Et c'est là qu'elle signe pour La Rivière sans retour d'Otto Preminger en 1954, à qui elle refuse de parler pendant tout le tournage. Donc Robert Mitchum, son partenaire, doit jouer les médiateurs. Donc effectivement.
Ça doit être bon, les ambiances de travail.
Ah, mais avec elle, c'était un peu. Voilà. Alors, c'est ça aussi, parce qu'on a beaucoup remarqué, il y a pas mal de gens qui ont critiqué qu'elle, évidemment, elle était très caractérielle.
Toujours en retard.
Toujours en retard, elle oublie sa moitié. Mais ce qui me fait quand même doucement rire, c'est que des stars comme Russell ou autres étaient bien plus capricieux, et ça, par contre, on n'en a jamais parlé. Alors, je sais pas pourquoi elle avait droit qu'on la critique tout le temps, et que, bizarrement, les autres, eux, ils avaient le droit de le faire, et que. Ça ne peinait. Donc, alors, il y a une anecdote, c'est que quand même Marilyn a failli quand même se noyer sur ce tournage, et elle a été secourue une autre fois par Robert Mitchum, puisqu'il l'a sauvée, parce qu'apparemment il y avait un accessoire qui tombait et qu'il l'a sauvée au dernier moment.
Comme quoi, hein, c'est un peu la poisse.
Oui, ah ben, il y a des acteurs
toute
comme
sa
ça.
Vie, hein.
Voilà. Et en 1953, elle doit jouer The Girl in the Rink Tint avec Frank Sinatra. Elle refuse et est suspendue par la Fox. En 1954, donc elle épouse DiMaggio et ne veut se consacrer qu'à son mariage. Elle se rend 3 jours en Corée et chante pour les fameux soldats américains. Et c'est là où elle a quand même lutté contre sa panique de la foule. De retour à Hollywood en 1954, elle règle son différend avec la Fox et tourne La Joyeuse Parade. Ce film musical de Walter Lang est un échec. Les critiques sont assassines, mais Marilyn avoue que ce film a été fait ensuite pour faire les fameux 7 ans de réflexion de Billy
Wilder, sorti en 1955. Donc dans un style cher au réalisateur, le film débute par une séquence chez les Indiens Algonquins. Qui ont donné le nom Manhattan à cette célèbre île de New York il y a quelques centaines d'années. Les guerriers, je fais un petit break sur les Indiens. Les guerriers font leurs adieux parce que ça a un rapport.
Oh non,
C'est un rapport, tu sais, avec le film.
Oui, oui. Merci, oui.
Oui. Les guerriers font leur adieu à femmes et enfants qui partent pour les régions plus fraîches pendant les grandes chaleurs d'été. Donc, ça veut dire Algonquin, qui signifie littéralement les vrais hommes issus de cette terre. Communauté située au Québec et en Ontario. Mmh. Donc, Richard Sherman, un responsable, c'est le synopsis du film. Hein.
Oui.
Ça n'a rien à voir avec les chars. Un responsable dans une petite maison d'édition spécialisée dans les rééditions bon marché avec des couvertures aguichantes, a accompagné sa femme et son fils, donc justement à la gare, pour les mêmes raisons. C'est-à-dire, tu vois, il quitte New York pendant les grandes chaleurs pour se rendre dans des régions plus fraîches. Hop, la fournaise new-yorkaise pour se rendre dans le Maine, qui est un peu plus au nord. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est à la frontière avec le Canada. Bien plus accueillant en été. À peine séparés, les tentations sensuelles sont déjà présentes et menaçantes, mais Richard se promet de ne jamais y succomber. Comme d'ailleurs à l'alcool et à la cigarette. C'est marrant, c'est quand même à l'époque. Hein.
C'est whisky, cigarette et petites pépées, c'est
ouais, ça ? Ouais, ça me fait un peu marrer, ça me fait marrer. Donc, suivant les recommandations, bien sûr, de son épouse et de son docteur.
Oh, c'est mignon.
Oui, il rentre donc chez lui et fait la connaissance d'une jeune femme à la beauté insensée. Non, il n'y a pas de zès. À la beauté insensée. modèle dans la publicité, tiens donc, qui a emménagé dans l'appartement des voisins du dessous. Non, il ne cède pas à la tentation, se répète-t-il. C'est bien, merci. Richard est un homme à l'imagination galopante et conçoit ainsi plein de scénarios, par exemple pour révéler à sa femme son pouvoir de séduction ou pour charmer sa nouvelle voisine. De fil en aiguille, d'un premier rendez-vous au suivant, une relation avec l'irrésistible starlette peut s'engager. Quelques personnages hauts en couleur viennent troubler soit ses intentions, soit sa mauvaise conscience. Par exemple, le docteur Brubaker, auteur d'une étude de l'homme et de son subconscient. Ou encore son célèbre concierge qui s'appelle Kubulik, venu chercher un tapis à nettoyer. Et Tom McKenzie, bien sûr, une connaissance de la famille qui pourrait bien séduire la femme de Richard. Enfin bon, voilà. Ça tourne autour de tout. Donc c'est la pièce de théâtre écrite par George Axelrod, a rencontré un très grand succès à Broadway en 1952 et rapidement les studios d'Hollywood s'y sont intéressés. Le sujet de la pièce, une affaire d'adultère, ne pouvait pas passer le cap de la censure puisqu'à cette époque, le sévère code ACE, donc c'est une commission propre à l'industrie du cinéma, régissait la morale des œuvres cinématographiques. Ouais. Le code préconisait en effet, entre autres, que l'adultère ne devrait jamais être sujet à plaisanterie. Modification de l'intrigue pour le film, beaucoup de désirs chez Richard, mais pas de concrétisation en fait, tu vois, rapport à la pièce. Hein. Mmh. Puisqu'on retrouve quand même la structure théâtrale reste néanmoins très présente. Toute l'action se passe dans l'appartement de Richard, à l'exception de la célèbre scène de la bouche
de métro.
Oui, filmée en plan américain, c'est-à-dire pas un seul gros plan.
Ouais, ouais,
d'ailleurs, cette photo, vous pouvez la voir au pastel.
Voilà. Et d'ailleurs, Billy Wilder exigea de nombreuses prises, ce qui énerva DiMaggio. Et c'est après plusieurs disputes que Marilyn annonce la séparation. Donc, ils ont quand même un peu. Se sont un peu séparés à cause de ce.
Ouais.
Ils divorcent en 54.
Est-ce qu'il faut. J'ai pas fini le film, monsieur, j'avais encore quelques fois. Non, mais tu m'as coupé. Avec ton. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il soit séparé de DiMaggio.
Bah, si, quand même.
Bon, ok. Donc, Marilyn ne joue pas le rôle d'une sotte, mais plutôt d'une jeune naïve et spontanée. Elle n'a pas de nom, puisque je crois qu'elle se fait appeler The Girl. Mmh. Elle est belle et elle le sait, mais. Enfin, ça, c'est pour son rôle. Hein. Elle est belle, elle le sait, mais ne joue pas. Elle séduit sans vouloir séduire. Marilyn vivait alors des moments difficiles, puisque, comme tu l'as dit, DiMaggio, gna 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 gna, on s'en
fout. Oui, enfin, moi, non, parce qu'il était un peu brutal, hein, s'il faut quand même ajouter.
Pourtant, lors de la première donc, de ce film, le jour de son 29e anniversaire, c'est avec Joe.
Voilà. Mais Joe, il avait toujours été présent, même s'ils se sont séparés.
D'accord. Après ce grand succès, Marilyn a obtenu plus de pouvoir face au studio, notamment quant au script et au choix du réalisateur.
Alors ce qu'il faut savoir aussi, parce qu'on parlait de cette fameuse scène de la bouche de métro, c'est qu'elle avait été reprise en France. Je ne sais pas si tu te souviens d'un éléphant trompe énormément.
Oui.
Annie Dupéré qui, avec, par contre, en robe rouge cette fois-ci. Donc voilà, ça a été quand même, nous on l'a refaite, version Dupéré.
Oui, voilà, c'est pas pareil quand même.
Voilà, c'est ça. Et puis, et c'est vrai qu'elle tourne, mais en même temps, Marilyn quitte alors Incognito Hollywood le 16 décembre 1954 pour rejoindre New York et puis le domicile du fameux Milton Green, qui est un photographe. Et d'ailleurs, les photos de Marilyn à New York sont, moi, je considère comme les meilleures.
Tout ouais. Est meilleur à New York.
Non, je dirais pas. Bah, ça a toujours été la guerre entre New York et Los Angeles. C'était la résidence des grosses productions et New York a toujours eu ce côté un peu plus intellect, quoi. Donc, et là, en fait, Milton Green pousse Marilyn à créer sa propre production, donc les Marilyn Monroe Productions, avec lesquelles elle décide de relancer sa carrière, Milton l'ayant convaincu de se séparer des grandes productions. Fox est finalement menace de la suspendre, puis la suspend officiellement en 1955. Ce qui n'est pas sans rappeler la fameuse, puisqu'elle a été la première à faire ses propres productions, comme une certaine blonde aussi connue, Madonna, qui a fait sa société Maverick.
Oui, qui a fait aussi un film, dernièrement,
voilà.
Wallis et Edouard.
Et en 55, donc, elle prend des cours de comédie avec l'actrice britannique Constance Collier, grâce à Truman Capote, l'auteur, une grande actrice qui a travaillé dans La Corde, le film La Corde de Hitchcock. Marilyn demande à travailler avec Alfred via la Fox, mais ce dernier refuse de travailler avec une femme dont le sexe est affiché sur son visage.
T'as vu là ? C'est horrible. Hein ?
Voilà, il préfère les blondeurs froides comme Grace Kelly, qui ne savait pas conduire, la maman de Stéphanie de Monaco, pour ceux qui l'ignoraient, ou Tippi Hayden, qu'on voit dans le film Les Oiseaux. Et c'est vrai que lors du fameux tournage de La Joyeuse Parade, Marilyn rencontre Paula Strasberg et sa fille Suzanne. Elle demande à étudier à l'acteur studio avec Lee Strasberg. En mai, elle commence à fréquenter le dramaturge Arthur Miller,
quand même, hein,
qu'elle a rencontré 5 ans plus tôt. Le 1er juin, jour de son anniversaire, effectivement, comme disait, Joe l'accompagne à la première de 7 ans de réflexion à New York. Elle organise une fête, cette soirée se termine par une dispute, ils ne se voient plus pendant un long moment. Elle continue ses cours à l'acteur studio, elle joue dans la pièce d'Anna Christie avec Maureen Stapleton, d'après l'œuvre de Eugene O'Neill, sans oublier son texte, alors que pendant les répètes, ce ne fut pas le cas. Donc Lee Strasberg est fier de son élève, lui il la considère comme sa meilleure élève, enfin sa seconde meilleure élève, puisque le premier n'est autre que...
moi.
Oui, Marlon Brando.
Non mais quand on peut pas dire qu'elle n'ait pas mis de mauvaise foi à réussir quand même.
Ah non, mais c'est...
Après, moi je pense qu'elle est quand même restée sur cette image, comme je disais tout à l'heure, du calendrier, quoi, vis-à-vis de certaines personnes. Moi je pense que tu vois, comme Alfred Hitchcock l'a jugé par rapport à ça.
Oui, mais c'est-à-dire que c'est... Alors, je dirais que c'est l'avantage et l'inconvénient des studios, c'est que c'est un petit monde. C'est-à-dire que ça peut te faire monter très vite, comme ça peut te faire descendre. Lee Strasberg la prend sous son toit et l'incite à suivre une psychanalyse pour être plus proche de ses personnages qu'elle interprète. Donc effectivement, cet temps de réflexion atteint les 8 millions au box-office. La critique salue Marilyn. Grâce à son succès, elle négocie un nouveau contrat avec la Fox qui en lui donne plus de pouvoir. 100 000 dollars par film, 500 dollars de plus par semaine pour frais divers, un droit de regard sur le scénario, sur le directeur de la photographie et à pouvoir jouer dans un autre studio que la Fox.
Attention, les années 60, c'est beaucoup d'argent. Hein.
Voilà, c'est ça. Et son premier film dans cette nomenclature est Arrêt d'autobus de Joshua Logan. Et moi, ce que je considère comme le meilleur.
Ah oui ?
Donc, voilà.
Non, moi, je pense que c'est certains l'aiment chaud.
Mmh. Oui, aussi. Oui. Non, mais, moi, j'aime plus ce côté plus déchiré de Marilyn que ce côté plus comique. Quoi. Et là, c'est là qu'on voit un fameux personnage venir dans l'entourage de Marilyn, c'est cette fameuse Paula Strasberg qui est une plaie sur les tournages parce que Laurence Olivier, George Cukor, John Huston sont excédés et usés par sa présence. Un petit coup de tête et Marilyn recommence la scène, pourtant si parfaite. Paula s'attire des surnoms comme le champignon noir ou la sorcière, mais elle rassure Marilyn. Logan, le fameux réalisateur...
Elle était déjà fragile dans sa tête.
Hein. Oui, mais là, elle commençait un petit peu. Ouais. Elle essaie d'avoir l'Oscar pour Monroe, mais elle aura le Golden Globe pour son personnage de Sherry, une chanteuse de cabaye qui tombe amoureuse d'un cowboy. Arthur et Marilyn Monroe se marient le 2 juin 1956. Vous avez remarqué, c'est toujours au mois de juin chez elle. Donc s'ensuit le fameux prince et la danseuse en 1957 et interprété et joué par Laurence Olivier. Donc pour lui, c'est un peu la fin de carrière. Il veut se lancer un peu sur le nouveau monde, comment on dirait.
C'est quoi?
Les États-Unis, donc tu prends une star américaine. Et elle, par contre, veut plus, évidemment, c'est Laurence Olivier, et en même temps, toucher un peu plus l'Europe.
Ah, bien.
Voilà. Bah oui, il n'y avait pas que David Copperfield et Claudia Schiffer hein, comme mariage comme ça. Donc, par contre, lui, il déteste Marilyn pour ses caprices sur le plateau. Et plus tard, c'est lui qui dira « Elle fut merveilleuse, la meilleure de toutes ».
T'as vu ?
Je pense que... Non, mais ça, c'est l'avantage de Marilyn. C'est qu'elle avait un charisme époustouflant,
oui,
quoi.
Un charisme. Oui.
Oui, oh, comme tu peux être... Putain, t'es terrible, toi. Donc là, le film est un échec cuisant.
Oui, un de plus.
Ouais. Néanmoins, elle est saluée par la critique, notamment en Europe. Donc tu vois, ça quand même.
Ça a du bon.
Bah ça a du bon. Moi, je pense que puis si vous avez pas vu le film Weekend avec Marilyn, c'est parce que c'est sur ce fameux tournage.
Oui, oui.
Donc il est
avec le film avec Michelle Williams. Voilà, j'en parlerai tout à l'heure. Voilà. Où, je crois.
Ouais, mais si celui-là, il est nickel. Donc elle est absente en 58 et elle vit désormais avec Arthur Miller. Elle fait une fausse couche en 1950. C'est là que ça commence un peu, je pense,
sentir la poudre.
Ben oui, ça aussi, parce qu'il y avait des histoires de drogue aussi, hein, ce qu'il faut savoir aussi, drogue et alcool.
Rock and roll. Non, on va vous passer un morceau de dub.
Arthur Miller l'encourage néanmoins à reprendre le chemin des studios. Et là, c'est le fameux... Certains l'aiment chaud de Billy Wilder en 1950.
Le Billy Wilder.
le Billy Wilder. Alors, le réalisateur, juste, le réalisateur sait qu'il y aura des retards. Marilyn a du mal avec son texte qu'elle a le track. Cette fois-ci, Marilyn est hostile à rejouer certaines scènes. Et ses retards ont raison de son amitié avec Tony Curtis, le fameux...
Tony Curtis.
Voilà. Ce sera plus amicalement vôtre, hein.
Non.
Comme dirait l'autre.
Ça sera détestement.
Et il déclarera même...
Ah oui, je me souviens de ça, mais après il a dit non, c'est pas vrai.
Ouais, avoir à embrasser Hitler, quoi.
Non, mais il faut resituer. Certains l'aiment chaud. Est un film américain de Billy...
Wilder.
Bien. Sorti en 1959, il est classé premier par l'AFI. Je l'ai dit ce que c'était tout à l'heure, vous n'avez qu'à écouter. Dans la liste des films les plus drôles du XXe siècle devant... Tootsie et Docteur Follamour. Donc, le synopsis. Un corbillard est poursuivi par un véhicule de police. Le corbillard arrive à s'échapper afin de livrer son précieux chargement d'alcool. Oui, parce que ça se passe pendant...
La prohibition.
Merci. D'alcool de contrebande. C'est le Chicago de 1929 en pleine prohibition. La police fait une descente dans le tripot clandestin dont deux musiciens, Joe le saxophoniste et Jerry le contrebassiste, arrivant à s'enfuir. Oui, vous me suivez ou pas?
Oui, je te suis.
Sinon, vous appelez le 09, machin truc, ouais, machin truc. Ça. Je connais pas le numéro. Gwen, le numéro? Il a pas la carte. C'est pas grave. Alors qu'ils vont chercher une voiture pour se rendre à leur nouvel engagement, ils sont témoins d'une tuerie entre bandes rivales de la mafia. Afin d'échapper aux représailles, ils n'ont vraiment pas de chance, ils se font enrôler dans un orchestre composé uniquement de femmes. Tiens donc. Et doivent donc se travestir. En conséquence, elle... puisque désormais ils se nomment Joséphine et Daphné, partent en train pour la Floride. Elles font la connaissance de Sugar Cane, la chanteuse de la troupe Sweet Sue and Her Society Syncopatos. C'est super dur à dire.
Hein. Ouais, hein.
Moi aussi, j'ai souvent des noms compliqués. Hein.
Ouais.
On devrait engager quelqu'un qui dit que les noms compliqués.
Et ce serait pas mal, oui.
Oui. Monsieur Surimi, bonjour. Donc, après que tu m'aies coupé, je reprends. Donc, première au générique... Dans son 27e film, ça aussi, il faut le signaler, elle interprète le rôle d'une chanteuse et musicienne dans un orchestre de femmes Sugar Cane, de son vrai nom polonais... J'ai pas de chance.
Kowalski ?
Non, presque, Kowalczyk. Donc, ces séquences sont très nombreuses. Le film est considéré comme un remake du film allemand sorti en 1951, Fanfaren der Liebe, réalisé par Kurt Hoffmann et écrit par Michael Logan, qu'il a lui-même ensuite réécrit en adaptation américaine. Une remarque de Tony Curtis ainsi faite en aparté lors de visionnement de Rush, exaspéré par les retards incessants de Marilyn ainsi que son manque de sûreté dans le travail et les nombreuses prises à effectuer, il aurait commenté qu'embrasser Marilyn Monroe, c'était comme embrasser Hitler. C'est un film à voir quand même, vous devez l'avoir dans votre vidéothèque. Ouais, hein, parce que...
Moi, ce que j'aime bien, c'est la fin. Bon, le mec, il dit...
Non, tu dis pas la fin.
Si, bon, elle est connue.
Tu dis pas la fin.
Bon,
on dit la fin.
Non, mais c'est quand le mec, il dit non, mais je suis un homme. Et le mec répond, personne n'est parfait.
Oui.
Effectivement, quand on avait fait la première émission avec Anna, on avait fait sur les histoires d'amour et il y avait le fameux film Lullaby for P, et dont le comédien principal ne cessait de regarder ce film. Dans les années 60, sa gloire à Marilyn est à son comble.
On est vers la fin, là.
Voilà, ouais, bah, il reste plus que 2 ans. Elle accepte de tourner Le milliardaire de George Cukor. Elle est insatisfaite par le scénario, le fait réécrire par Miller, Gregory Peck doit jouer le premier rôle, mais il refuse. Gary Grant, Charlton Heston, Yul Brynner, et ouais, il s'en était fait des cheveux, le pauvre garçon.
Oui.
Ainsi que Rock Hudson se défile avant que un certain Yves Montand soit désigné pour jouer le rôle. Tournage désormais difficile entre le réalisateur et Marilyn. De plus, il adore Yves Montand. Ce qu'il faut savoir, c'est que George Cukor était...
homosexuel.
Voilà, c'est-à-dire. Donc lui, il adorait Yves Montand et que Yves Montand n'avait de...
Oui, mais il adorait pas dans son sens scénique, tu veux dire.
Voilà, c'est ça, oui. Oui, non, mais bon, c'est l'avantage du cinéma.
Plutôt son sens facial.
Ouais. Marilyn Monroe et Yves Montand vont entretenir une relation, quoi. Donc, puisqu'elle adore ce petit français.
Oui, et je crois que Simone Signoret avait déclaré, au moins, elle a bon goût.
Voilà, c'est ça. Mais je pense qu'il a été touché par sa grâce.
Et... elle est bonne, celle-là.
Oui, c'est vrai qu'elle a pris des kilos. Mais il est quand même retourné chez Simone. C'est curieux de dire ça, mais il a été fidèle à sa femme. C'est le début de ses problèmes de santé. Elle consulte un psychiatre à Los Angeles, le fameux doc Ralph Grissom, qu'elle voit quasiment tous les jours. Il veut qu'elle arrête les drogues. Elle joue ensuite dans Les Désaxés de John Huston, le film écrit pour elle par Miller. Souvent malade, elle ne peut jouer, elle est même hospitalisée 10 jours. Sans l'aide de Grissom, elle se remet à prendre des somnifères et de l'alcool. Le 16 novembre 1960, Clark Gable...
Très joli, merci.
Non, Clark Gable,
Il meurt. Répétez ça plus vite. Clark Gable,
Voilà, il meurt d'une crise cardiaque à Los Angeles à l'âge de 59 ans.
C'est de sa faute.
Voilà, et de nombreux journalistes accusent Marilyn d'en être la cause à cause de ses retards. Et le film n'est hélas pas un succès non plus. Et en plus, elle n'a pas arrêté de... Parce qu'évidemment, elle avait cette image
De paternelle.
Voilà, c'est ça. Et elle n'a pas arrêté de lui tourner autour et que lui, il a... Bon, bah,
il a regardé un peu de haut.
Je dirais pas qu'il a retourné de haut, mais là, il a refusé poliment, quoi. Elle devient de plus en plus... Marilyn Monroe, toujours, hein, devient de plus en plus dépendante au médoc, à l'alcool. Elle divorce de Miller en janvier 1961 et rédige son fameux testament. Elle accepte de se faire interner, mais elle y est placée en cellule de sécurité. Un véritable cauchemar. Elle doit la vie sauf à Joe DiMaggio qui l'a fait transférer au New York Presbyterian Hospital et reste près d'elle. Elle est incapable de jouer, elle rédige un nouveau testament qui ne sera jamais fait. Mais hélas, elle doit un dernier film selon son contrat de 1956. La Fox, parce qu'eux ils se sont un peu mis dedans avec le film Cléopâtre, donc ils exigent qu'elle fasse un film. Donc ils confient un scénario à Arnold Schulman, faire un remake d'une comédie de 1946. Qui avait déjà été un flop. Mon épouse favorite avec Irène et Gary Grant. L'histoire d'une femme disparue, supposée morte, et qui rentre chez elle et retrouve son mari remarié. Frank Tashlin, réalisateur des comédies de Jerry Lewis, doit réaliser. Marilyn veut revenir, mais pour elle, le scénario est jugé insipide. Prévu par son dernier contrat, elle a un droit de regard sur le script et le réalisateur. Nolan Johnson, qui avait travaillé sur « Comment épouser un millionnaire », est engagé. George Cukor, qui lui doit aussi un film, à la Fox, refuse dans un premier temps, mais se trouvant en situation un petit peu délicate, doit hélas accepter de tourner.
Cinéma et argent, bienvenue.
Oui, voilà, c'est ça. En plus, il la méprise quand même royalement. Marilyn signe pour 100 000 $ par film, alors que le barème à l'époque pour une star est de 7 fois plus. Hein, quand même. Le 5 mars 1962, à la cérémonie des Golden Globes, elle est ivre pour recevoir son prix des mains de Rock Hudson et la cérémonie ne sera même pas diffusée.
Par respect pour la dame.
Donc Johnson livre le scénario, Cukor, mécontent des dialogues, Fat demande à son ami Walter Bernstein de le réécrire. Ses partenaires Dean Martin et Sid Charis sont engagés. À la veille du tournage, Marilyn souffre de fièvre et prévient les studios. Cukor commence le tournage sans elle, avec les fameuses scènes où forcément elle n'y est pas. Le fameux docteur des studios, Lee Siegel, rien à voir avec Don hein, sans doute, recommande de retarder le tournage d'un mois. Les studios refusent. Le 30 avril, Marilyn se présente et tourne 90 minutes de rush avant de s'écrouler. Elle revient et tourne 3 jours, mais elle est de plus en plus mal. Elle a le trac, elle oublie son texte, Cukor explose. Le 1er juin, jour de son 36e anniversaire, de retour sur les plateaux, on lui prépare une petite fête. Donc le 7, la Fox fait entendre que Marilyn sera remplacée par Kim Novak ou toute autre actrice qui veut. Les studios attaquent Marilyn et demandent 500 000 $. Allez, et là ça commence. Ouf. Donc Novak refuse, Shirley MacLaine aussi, les Remick acceptent, mais Dean Martin refuse de jeu, lui, sans Marilyn. Sacré Dean. Et Chid Charis attaque Dean Martin. En justice, elle lui réclame 14 000 $. La Fox augmente le préjudice à 750 000 $ et se retourne contre Dean Martin. Elle lui réclame 3 339 000 $. L'acteur contre-attaque et réclame 6 885 000 $. L'année d'après, les poursuites sont abandonnées. Le 20... Le tournage doit reprendre. Marilyn, pour redorer son blason, fait des séances de photos de Joe DiMaggio et elle se revoient et évoquent même un futur mariage, le fameux 8 août 1962. Rendez-vous à la Fox, nouveau scénario, abandon de poursuite, Joe Negulsko et un nouveau contrat $1 million sur 2 films, 250 000 pour terminer Something Got to Give et 750 000 pour le prochain.
Il ne sera jamais fini ce film, ouais. Non?
Non, il ne sera jamais fini. Marilyn a 36 ans et a tourné 30 films. Le vendredi 3 août est consacré à de nombreux appels téléphoniques professionnels et privés et à des rencontres avec son psychiatre et avec son ami Pat Newcombe. Samedi pareil, travaille dans le jardin avec Doug Gridson et la balade sur la plage avec l'acteur Peter Lawford, beau-frère des Kennedy. Ça aussi, on en parlera des Kennedy rapidement. Certains le disent sous des effets de tranquillisants. À 19h45, elle a encore une conversation téléphonique. Elle semble déprimée, confuse. Il rappelle un peu plus tard, Lawson. Mais la ligne est en dérangement. Finalement, jointe, Eunice Murray, la gouvernante, engagée à la demande du Dr. Gleason, c'est là aussi que ça paraît un peu chelou, là.
Oui.
Indique que tout va bien. Il est alors 20h30. Marilyn est en train d'agoniser d'un surdosage médicamenteux. Marilyn Monroe meurt dans la nuit du 4 au 5 août 1962. Elle sera morte à 14h35, selon le médecin légiste. 5 heures se sont écoulées entre l'heure estimée du décès et le coup de fil des Gleason.
Que s'est-il passé ?
Voilà, aux côtés de Eunice Murray. Ce qui est marqué sur le dossier, c'est que c'est un suicide probable. Mais le cas ne sera jamais élucidé. Dès 1962, des scénarios incriminant FBI et CIA voient le jour. On a dit avoir vu Bob Kennedy le soir de la mort avec le docteur et une fameuse...
Seringue ?
Une fameuse seringue, voilà. Marilyn est inhumée le 8 août 1962 au Westwood Village Memorial Park Cemetery de Los Angeles. Sa demi-sœur Berenice et Joe DiMaggio organisent les funérailles et n'ont pas permis à Dean Martin et à Frank Sinatra. Voilà, bouleversé par la disparition, son ex-mari aurait murmuré 3 fois « je t'aime » sur le... Voilà.
C'est touchant.
C'est touchant. Alors, effectivement, on avait quand même un peu éludé cette histoire avec les Kennedy, puisqu'ils se sont rencontrés la première fois en 1954 dans une soirée.
Roro ?
Bah oui, non, John.
Ah,
John.
Jojo.
JFK. Il n'était que sénateur à l'époque, et effectivement, après, ils se sont reconnus jusqu'aux années 60.
Mais il était volage déjà.
Mais il était très volage, il avait beaucoup... Alors, ce qu'il faut savoir quand même, parce que c'est là où se tient l'originalité quand même de cette relation entre John et Marilyn, c'est que Jackie acceptait que John ait des maîtresses. Il y avait un sorte de contrat tacite entre eux où tant que ça commençait pas à lui baver dessus, c'était bon quoi. S'il pouvait faire ça dans son coin, mais voilà, parce que lui, il était complètement malade de ça. Oui, bah comme notre célèbre Bill à l'époque aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que Marilyn venait quand même souvent chez les Kennedy. Elle était acceptée. Elle avait apparemment été très amie avec la sœur de Kennedy, la femme de Paul Lawson. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le père des Kennedy avait déjà eu une relation avec une actrice Swanson.
Qu'elle faisait là en fait? C'était quoi, une prostituée ?
Non, il y avait une...
Parce que je crois qu'elle a quand même appris à Robert aussi qui a un peu tâté la chose.
C'est des oui-dire, parce que techniquement, il n'est jamais été question de rapport entre Robert et Marilyn. Par contre, il y avait une véritable histoire d'amour entre John et Marilyn. Je dirais plutôt...
Plus elle que lui,
parce que lui, il était...
Oui,
il
lui, était c'était quand même juste volé. Quelqu'un parmi tant d'autres.
Voilà, c'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment, Jackie avait aussi des sauts d'humeur. Et c'est-à-dire qu'à un moment, elle décidait que l'histoire était... terminé. Donc, la fameuse nuit où notre...
Du Happy Birthday,
en fait, Jackie a fait une grosse crise à John et ça voulait dire que l'histoire avec Marilyn était terminée. Marilyn était complètement dépressive, était malade, elle avait fait aussi plusieurs fausses couches. Hein.
Ça veut dire qu'elle était enceinte de John ?
Elle était enceinte de John. Enfin, on suppose qu'il est de lui. Elle n'a pas fait de test ADN.
Non,
il n'y a pas eu Grissom
qui
passait.
Moi, j'ai vu une photo là, donc cet anniversaire. Donc, tu vois, il y a John qui est sur le côté avec Marilyn qui le regarde et il y a quand même Robert.
Parce que là, cette soirée-là, elle était complètement malade et elle était sous la menace de la Fox puisqu'elle avait quand même dit qu'elle ne bosserait pas. Elle était malade et qu'elle allait faire ce truc.
Oui, un aller-retour. Oui.
Voilà, c'est ça. Alors que logiquement, elle devait bosser. On lui a dit, gars, si tu vas là-bas, c'est que tu peux être capable. De... Donc, elle perdait son boulot quand même là-dessus pour aller danser. En plus, elle était dans une robe mal fagotée.
Un beau décolleté.
Et je crois que d'ailleurs, dans le dos, c'était complètement claqué. Elle était quasiment nue. Donc, je te dis que les artistes qui étaient derrière, ils se sont bien rincés l'œil. Et il faut savoir que cette robe a été vendue, je ne sais plus combien de millions, aux enchères. Bon, pour John, c'était terminé. Il a rencontré une autre nana qu'on a souvent dit que c'était juste un substitut pour qu'il passe à autre chose. Hein.
Oui, donc cette histoire de Bob, là, parce que tu t'éparpilles, on ne sait plus où on en est.
Mais non, mais toi, tu veux Bob.
Pourquoi Bob, c'était qui, en fait ?
Mais Bob, c'est son frère.
C'est celui qui a rangé tout chaque fois qu'il y avait
voilà,
une phrase.
C'est
le nettoyeur.
C'était le nettoyeur, parce que, en fait, que les journalistes n'ont jamais touché à cette histoire-là. C'est-à-dire que tout le monde était au courant. Marilyn a touché tout le Gotha. Comme il y avait eu quand même des histoires entre les Kennedy et la mafia, que John était ami avec Frank Sinatra, Dean Martin, le fameux Rat Group, et Sammy Davis Jr. Donc, effectivement, ils faisaient des soirées là-bas.
Un peu olé-olé, on va dire.
Tu peux être glauque. Non, ils faisaient des soirées, c'est tout. Mais bon, voilà, c'était les gars de la haute, quoi.
Oui, des soirées olé-olé, on s'est bien compris. Prostituée et tutti quanti.
Oui, si tu veux.
Mais c'est pas si je veux.
Voilà. Et donc, elle a essayé, elle a pas arrêté d'appeler les Kennedy et c'est Robert qui a mis le haut là.
Oui, finalement, qu'on ait fait un suicide arrangé, tu veux dire que ça arrange tout le monde.
Bah, il y avait ça. Il y avait cette histoire-là qu'effectivement, on aurait dit parce qu'il y avait le fameux Edgar Hoover qui menaçait aussi. Parce que ça,
le fameux J. Edgar.
Voilà. Puisqu'il avait quand même des écoutes et qui menaçait. Ces histoires avec cette espionne russe, comme quoi. John aurait couché avec et aurait dit certains secrets d'État. Donc voilà, il y avait tout cette
ambiance.
Cette ambiance, voilà. C'est un autre scénario, c'est qu'à un moment, Frank Sinatra aurait attrapé Marilyn Monroe et l'aurait amené à Las Vegas et sous des effets de drogue, l'aurait vendu à des richissimes hommes d'affaires qui en auraient profité et que de là, elle aurait été encore en plus dépression. Ce qui aurait fait... que, évidemment, John DiMaggio aurait refusé que Dean Martin et Frank Sinatra soient présents le jour. Donc voilà, c'est un fameux histoire. Ça, c'est des oui-dire, la vérité, le mensonge. Hein, tu sais, c'est comme la mort de JFK. Ça, on saura vraiment jamais. Quoi,
c'est pitoyable, quoi, quand même. Hein. Bah, qu'elle est finie comme ça et...
Bah, moi, je dirais que c'est une conséquence, c'est une logique. Le docteur Grissen, qui avait quand même beaucoup travaillé sur sa psychologie, aurait dit qu'elle était schizophrène et que quelque part, c'est Norma Jean qui aurait suicidé Marilyn. C'est une double personnalité.
Oui, puis ça arrange tout le monde, hein, ce qu'il peut raconter, mais, ce qui s'est passé.
Mais il y a beaucoup de gens, parce qu'on dit...
C'est bien gavé sur son dos. Aussi.
Oui, voilà, parce qu'il y a cette histoire de testament. Le premier aurait été gardé, alors qu'elle aurait changé dessus, parce qu'après, elle s'était un peu fâchée avec certains, et que, bon, comme le second testament n'a jamais été validé, mais elle avait...
D'où
quand même...
le nouveau testament.
Voilà, c'est ça. C'était une très belle femme, une... qui avait beaucoup de charme et qui savait, parce qu'elle savait charmer les gens. Elle est tombée, je pense, à une mauvaise époque, si on veut, parce que c'est vrai qu'elle coïncide encore avec le sectarisme un peu pudibond des années 50, où effectivement on joue à touche pipi, mais il faut que ça reste sous couvert, et qu'elle a osé, et que c'était avant mai 68, et effectivement avec la libération sexuelle. Donc elle a touché. Qu'elle le dire, au sexe de l'Amérique. Je pense qu'elle n'a pas été assez forte, sans doute dû à
son enfance tragique.
À son enfance. Et je pense qu'elle n'a pas été assez forte, comme l'est maintenant une Madonna à pouvoir tout gérer. Oui. Là, elle a tenté, mais elle a toujours suivi les conseils des uns et des autres. Et je pense qu'on sait bien s'est servi sur son dos, et notamment les grands studios. Quoi.
Mais elle reste toujours, même de nos jours, une idole. Hein. On peut la retrouver dans des chansons, comme Vanessa Paradis l'a fait, Marilyn et John.
Ouais. Il y en a d'autres aussi. D'un lion.
Mais Gainsbourg aussi a fait une chanson sur elle, parce qu'avec son vrai nom.
Non, mais et puis Elton John.
Oui, aussi.
Candle in the Wind, qui avait été repris d'ailleurs pour le décès de la princesse Diana. Mais je pense qu'elle a été, et je pense que c'est aussi le cas de James Dean, c'est-à-dire que sa mort l'a rendue vraiment au titre posthume. Je pense que si elle avait continué sa carrière, peut-être qu'elle n'aurait pas eu cette gloire. Bon, effectivement...
Elle n'aurait pas continué longtemps, de toute façon.
Je pense qu'elle n'aurait pas continué tout à fait physiquement. Elle était au bout, capillairement parlant, santé. Bah oui, non, mais oui. Je veux dire, voilà quoi.
Il n'y avait pas les produits de maintenant.
Voilà, c'est ça. Et puis là, elle était aux médicaments, à la drogue, à l'alcool. Et puis aussi...
Et manipulé.
Et manipulé, surtout par ce qu'on a dit par Grissom, les Strasberg et autres. Donc voilà, cette histoire avec Joe DiMaggio aussi, qui a été dure, Arthur Miller, parce qu'elle cherchait le côté rassurant de Joe DiMaggio, ce côté physique et en même temps l'intellectuel, parce qu'elle avait besoin d'être admirée, quoi. Elle avait ce besoin narcissique d'être admirée. Donc non, moi je trouve que c'est une artiste vraiment, entre guillemets, maudite, mais il y en a eu d'autres.
Oui, malheureusement. Donc d'où ce célèbre film, et très joli d'ailleurs, My Week with Marilyn, en 2011, de Simon Curtis. Donc ça se passe en 1956, comme tu l'as dit, avec Sir Laurence Olivier se prépare à tourner Le Prince et la Danseuse. Donc il y a le jeune Colin Clark, étudiant en cinéma, donc se fait embaucher en tant que troisième assistant réalisateur, témoin des relations donc, entre l'acteur réalisateur et son actrice productrice. Donc on voit une opposition entre l'actrice surmédiatisée et le réalisateur de plus en plus odieux, nous dirons, voire très dur même.
Oui, c'est Kenneth Branagh qui joue aussi Laurence Olivier.
Oui, tout à fait. Donc Colin Clark est progressivement invité par la jeune femme qui est jouée donc par Michelle Williams de la série Dawson à entrer dans son monde intérieur où elle lui dévoile, oui bien sûr, je te vois venir, ses luttes intimes ainsi que ses craintes relatives à sa célébrité, à sa beauté et son désir d'être une grande actrice.
Moi, je pense que ça montre effectivement ce côté, enfin du moins ce film, hein, mais tout au long de sa carrière, c'est qu'elle avait besoin d'être aimée.
Tout simplement.
Voilà, c'est ça. Et que finalement, elle a donné... Enfin, je pense que c'est comme tous ces gens qui sont en mal d'affection et qui, en fait, donnent tout juste pour être admirés et que les gens, ils en profitent un max.
Donc, sur ces entremets...
Sur ces entremets, on va passer à notre rocher préféré.
Le pastel, pour vous parler donc, du premier film, donc Les Saveurs du Palais. Ça tombe bien. Les Saveurs du Palais. Non, me regarde pas avec ton sourire, ça
non,
fait
non,
peur.
Non, mais c'est juste pour que tu dises le nom de l'actrice.
Ah, de Christian Vincent, de Catherine Frott et Jean d'Ormesson qui joue le rôle du président. Donc, oui. C'est un hommage à la cuisinière qui était sous Mitterrand. Hein.
Oui. Et puis, moi, je trouve que ça sera un très bon président, ce Jean d'Ormesson.
Oui, et il y a aussi, je crois, Hippolyte Girardot dedans. Donc, c'est Hortense Laborie, est une cuisinière réputée qui vit dans le Périgord. À sa grande surprise, le président de la République, elle la nomme responsable de ses repas personnel au palais de l'Élysée. Malgré les jalousies de ses chefs de la cuisine centrale, Hortense s'impose avec son caractère bien trempé. L'authenticité de sa cuisine séduira rapidement le président, mais dans les coulisses du pouvoir, les obstacles sont nombreux. Donc pour résumer ce film, je dirais tiède.
Ah oui.
Oui, donc mal dosé le film, virgule.
Mal dosé, pas assez épicé, tu veux dire.
Oui, on ne sait plus très bien quelle est l'histoire du film. Une cuisinière de talent au service du président, la cuisine privée du président, les relations entre une cuisinière et le président, les coulisses des cuisines du palais de l'Élysée, l'histoire du parcours d'une cuisinière, les secrets du terroir.
Et c'est pas écrit Bécasse ici, hein.
Oui, donc non, je vais retenir donc la complicité de la cuisinière et de son jeune chef. Il y a donc là deux interprètes de qualité, Catherine Frott et le jeune Arthur Dupont, donc qui méritent d'être suivis. Les coulisses donc des cuisines du palais de l'Élysée font rêver et il y aurait tant de choses à voir et à dire.
Et surtout à goûter.
Oui, nous allons passer tout de suite à Mobile Homme, d'un film de François
Pirot.
Merci. Avec Guillaume Guix et Arthur Dupont. Donc c'est le premier long métrage du jeune Belge. Simon a quitté son travail et son ami en ville pour rentrer dans son village natal où vivent ses parents retraités. Il y retrouve Julien, son copain d'enfance, lequel vit avec son père qui relève d'une grave maladie. Un soir, sur un coup de tête, ces deux trentenaires décident de réaliser un rêve d'adolescence, partir. Point. Ils achètent un camping-car et se lancent dans l'aventure avec enthousiasme. Mais une panne les cloue aussitôt sur place. Ce faux départ qui s'éternise, les petits boulots qu'ils doivent trouver pour survivre et les rencontres qui s'ensuivent leur ouvrent d'autres perspectives sur leurs désirs réels et sur cet avenir qu'ils ont un peu vite rêvé. Donc c'est à ne pas rater. Point.
Ah oui.
Oui.
Celui-là, tu dis oui, il faut aller le voir. Celui-là.
Oui. Même l'autre, hein, pour les adorateurs de Catherine Frott, s'ils veulent, ils peuvent. Donc, à ne pas rater, je finis.
Qui s'y frotte, c'est ça ?
Oui, qui s'y frotte, s'y pique. Donc, à ne pas rater. Donc, ce film d'une grande fraîcheur, plein de vivacité et sans cynisme, hein, Gwen, qui raconte avec beaucoup de profondeur l'indécision, le doute, la difficulté à faire des choix. Les acteurs sont très remarquables. Pas remarquable, hein. Remarquable.
Oui, oui.
En particulier, le duo principal, parfois insupportable, mais toujours irrésistiblement attachant. Donc, c'est un film intelligent, modelé avec finesse.
Ralph Fiennes, ouais, bien connu, bien.
C'est une dame. Donc, suite aux différentes demandes et menaces de notre ami Surimi,
Oui,
qui est toujours là avec ses manivelles et autres consoeurs.
Ouais, c'est ça.
À nous menacer.
Oui, tout à fait, oui, parce que sinon, après, on se fait tabasser.
Voilà, donc la semaine prochaine, nous parlerons.
Du souris. Des fruits de mer dans le cinéma.
Nous parlerons.
Je sais pas, des films de guerre.
des films de guerre sous la Seconde Guerre mondiale, qui se passent en Europe, exclusivement.
Ouais. Donc, allemand contre consoeur.
Oui.
L'ennemi principal, c'est le nazi.
Et aussi, donc, nous allons donc terminer cette émission avec un hommage à Claude Pinoteau.
Oui.
Puisque Gwen passera donc le thème La Poule.
Ah oui, c'est vrai. Mais
oui.
Ma Soso.
Mais oui.
C'est la première de Soso.
Non, c'est pas le qui est mort, c'est le réalisateur.
Oui, ça, je m'en fous.
Ah, bon, c'est pas ça. Donc voilà, et qui avait aussi réalisé la chanson. Que je vais en mettre une tout de suite à côté.
On va jouer au fameux spectacle.
Oui, donc tu y penseras, hein.
Ah, okay, le thème, d'accord. Il n'y a pas de soucis. Là, par contre, c'est Sourimi qui va me tabasser.
Au revoir.
Au revoir à tous.
Good night, Marilyn.
Bye bye. It's a pleasure meeting you.